Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Peut-on déjà parler d'un fiasco aux États-Unis dans l'Iowa pour les premières élections à la primaire démocrate? En tout cas, les résultats se font attendre depuis plusieurs heures maintenant. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place.
Et puis nous reviendrons ensuite sur la polémique dans le patinage artistique français. Des entraîneurs sont accusés d'agression sexuelle, priés de démissionner. Le patron de la fédération accuse l'ancienne ministre Marie-Georges Buffet.
Envoyez-nous des mots doux. Voici en substance le message que veut faire passer le personnel hospitalier aux citoyens. Il prépare une grande mobilisation dans 10 jours.
Et puis dans ce journal, nous irons aussi à Genève, d'où l'OMS multiplie les messages pour contrer les fausses informations à propos du coronavirus. Le bilan en Chine atteint les 425 morts.
Et puis après cette édition, Frédéric Saïs nous expliquera les doubles journées d'Édouard Philippe, Premier ministre et candidat au municipal. Ce sera son billet politique à 8h16. C'est le premier test pour les démocrates américains. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne commence pas très bien. Les caucus ont débuté dans l'état de l'Iowa hier soir, à 9 mois de l'élection présidentielle. Et ces premières élections démocrates doivent désigner l'adversaire de Donald Trump. Processus qui vient donc de débuter, mais les résultats se font attendre. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre envoyé spécial dans l'Iowa. Les représentants locaux du parti n'ont cessé de repousser la proclamation des résultats en raison, disent-ils, d'incohérences.
Oui, le parti démocrate de l'Iowa est obligé de reconnaître qu'il y a des incohérences dans les résultats et plusieurs responsables du parti expliquent aux médias américains et notamment à CNN qu'ils espèrent maintenant avoir ces résultats dans la journée de mardi, c'est-à-dire demain pour nous. Le problème viendrait d'une application informatique qui était censée remonter ces résultats des 1700 bureaux de vote de l'Iowa et qui a dysfonctionné. C'est la consternation dans les états-majors des candidats et les militants démocrates de l'Iowa sont partis dormir sans connaître les résultats de leur caucus. Il est 1h du matin dans le Midwest. Pour le Parti démocrate, cette situation est quand même très problématique. Vous savez que pour cette campagne, des millions de dollars ont été dépensés. La tension médiatique est énorme, voire démesurée, comme tous les 4 ans pour cet État qui est le premier à voter. Les principaux candidats, eux, ont fini par prendre la parole en milieu de soirée, sans connaître ses résultats, et le discours de Pete Buttigieg, 38 ans, le Benjamin de la course, l'ex-maire de South Bend, avait étrangement des accents de victoire. Son entourage nous dit qu'il est sur le point de l'emporter, selon leur propre décompte. Même chose du côté des équipes de Bernie Sanders. Au moins 2 candidats commencent donc à parler de victoire, alors qu'au moment où on se parle, en vérité, personne n'en sait rien.
Merci Grégory. Grégory Phillips pour l'attente donc de ces résultats dans l'Iowa. Alors que le président américain Donald Trump, républicain, lui, se prépare à prononcer son discours sur l'état de l'Union. Il est prévu ce soir. Discours qui pourrait coïncider avec la fin du procès de Donald Trump en destitution et avec son acquittement. De quoi revigorer le président américain, Isabelle Raymond.
Évidemment, dans un scénario idéal, Donald Trump aurait préféré que la procédure de destitution soit déjà terminée. N'empêche que ce n'est déjà pas si mal, avec un procès devant le Sénat expédié en 2 semaines à peine, 2 brebis égarées seulement dans le camp républicain ont voté pour la comparution de témoins et la publication de documents, pas suffisamment pour emporter le vote des sénateurs. C'est donc un acquittement qui se profile indéniablement ce mercredi pour Donald Trump, et avant cela, ce soir, le camp républicain resserré, ressoudé autour de son président, écoutera son discours sur l'état de l'Union devant des démocrates déçus de ne pas avoir réussi leur pari, les yeux rivés sur les résultats du caucus de l'Iowa dans cette primaire qui démarre pour eux. Alors Donald Trump pourra profiter de ce moment politique et médiatique privilégié pour faire ce qu'il sait faire le mieux, se vendre, faire la promotion de son action et dresser un bilan flatteur de ses 4 ans passés à la Maison-Blanche pour mieux se projeter dans les 4 ans à venir.
C'était Isabelle Raymond depuis Washington. C'est un acte rarissime. La ministre des Sports a exigé hier la démission du président de la Fédération des Sports de Glace. Roxana Maracineanu le met en cause après des accusations de violences sexuelles dans le patinage artistique français dans les années 80 et 90. Plusieurs entraîneurs sont mis en cause dans les témoignages d'anciennes patineuses et Didier Gayaguet, président de la Fédération, est soupçonné d'avoir fermé les yeux et même d'avoir couvert l'un de ses amis entraîneurs. Il se défend, j'ai commis des erreurs. Pas des fautes, estime-t-il, et il accuse les ministres de l'époque.
Les premiers responsables sont ceux qui ont laissé commettre ces exactions. Je veux bien sûr citer le ministère et la ministre des Sports de l'époque, lesquels, de par leur lâcheté, leur incompétence et leurs nombreuses volte-face, ont permis de laisser des personnes sur la glace dans des sports à maturité précoce, donc plus exposées, alors qu'elles auraient dû être soignées et mises hors d'état de nuire.
Alors, entre 1997 et 2002, Marie-Georges Buffet était ministre des Sports dans le gouvernement Jospin. Elle a répondu ce matin à Didier Gayaguet.
Le sujet n'est pas Monsieur Gayaguet et Madame Buffet, le sujet ce sont les femmes, les jeunes filles qui ont été victimes et les femmes qui ont le courage de parler aujourd'hui. Et le deuxième élément, ce sont ceux qui ont commis ces actes. Et je pense qu'il va falloir aller jusqu'au bout pour que ces personnes répondent de leurs actes. Alors ensuite, sur incompétence, chacun peut juger. Sur lâcheté, je réfute parce que j'ai donné à voir durant mon ministère que je n'étais pas quelqu'un de lâche. Et ensuite, nous avons fait ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire que nous avons suspendu, dès que nous avons été alertés, M. Bayer. Ensuite, nous avons fait une enquête administrative, nous avons transmis le dossier au parquet, qui n'a pas donné suite, et je le regrette. Mais voilà, donc ne faisons pas d'une vraie affaire, qui est la parole des femmes qui se libèrent dans le sport, et donc de la recherche des responsables de ces victimes, ne faisons pas une affaire de duel entre Buffet et Gayaguet.
C'était Marie-Georges Buffet chez nos confrères de France Info ce matin. Le parquet de Metz n'exclut pas un acte terroriste. Un homme est entré hier dans une gendarmerie de Moselle à Dieuze, au sud-est de Metz. Il a blessé un jeune militaire de 19 ans avec un couteau. Le gendarme a répliqué avec son arme de service, le blessant à l'abdomen. Le gouvernement recevra en fin d'après-midi tout à l'heure plusieurs associations qui militent en faveur d'une meilleure prise en charge du deuil. Leurs représentants rencontreront le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud qui avait reconnu une erreur lorsque des députés de la majorité ont la semaine dernière rejeté une proposition de loi qui prévoyait d'allonger les congés des parents ayant perdu un enfant. Face au tollé, Emmanuel Macron avait dû intervenir. Un amendement sera d'ailleurs proposé pour rectifier cette erreur. Retour sur l'affaire avec Stéphane Robert.
Tout commence jeudi dernier à l'Assemblée. Les députés de la majorité rejettent une proposition de loi de l'UDI qui prévoit d'allonger de 5 à 12 jours la période de congé d'un salarié dont l'enfant vient de mourir, ce que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, justifie en ces termes.
Congé, c'est 100% payé par l'entreprise. Donc c'est ça le débat. Est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale ?
Mais depuis, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité, lequel gouvernement reconnaît désormais une erreur et prépare un amendement de réparation pour l'examen du texte au Sénat le mois prochain. Un geste salué par les associations qui militent en faveur d'une meilleure prise en charge du deuil.
Je pense que le gouvernement prend la mesure de cette erreur et du coup veut aller au-delà de la proposition qui était faite, ce qui nous semble une bonne chose.
Marie Tournigan est responsable de l'association Empreinte, l'une des 10 associations qui seront reçues cet après-midi par les deux ministres, Muriel Pénicaud et Adrien Taquet.
Nous préconisons que ce soit effectivement une durée d'au moins 12 jours, que ce soit facultatif et pas imposé aux salariés, et que ces jours puissent être pris non pas tout de suite d'un bloc à l'issue du décès, mais au moment où le salarié en ressent le besoin. Parce que pour certains, et c'est assez fréquent, le retour à l'emploi est une question de survie. C'est-à-dire que le fait de se remettre au travail protège de la douleur pendant un certain temps.
D'autres dispositions seront discutées au cours de la réunion prévue cet après-midi, comme l'accompagnement préventif pour un enfant atteint de maladies graves ou encore l'accompagnement psychologique des parents dans la durée après le décès.
Eux avaient voulu accompagner une dernière fois leur collègue directrice d'une école maternelle à Pantin, Christine Renon, qui s'était suicidée sur son lieu de travail à l'automne dernier. De nombreux enseignants s'étaient alors mis en grève le jour des obsèques de Christine Renon pour exprimer leur émotion. Eh bien, une journée de salaire leur a été prélevée sur leur paye de janvier, en plus des journées contre la réforme des retraites. Le premier syndicat du primaire, le SNU IPP-FSU, demande au ministère de l'Éducation nationale de revenir sur cette décision. Écoutez sa secrétaire départementale en Seine-Saint-Denis, Marie-Hélène Plard.
La profession a été quand même extrêmement mobilisée depuis le 5 décembre, donc on attendait de voir comment les retraites sur salaire allaient s'effectuer par rapport à la journée de grève. Et quand on a découvert que, en gros, face aux nombreuses journées de grève du mois de décembre, il y avait en plus la journée du 3 octobre, ça a déclenché la colère. Et les collègues qui nous ont contactés ne nous ont pas contactés pour remettre en cause les retraites salaires du mouvement de grève sur les retraites. Voilà, on s'est engagé dans un mouvement dur, entre guillemets, on l'assume et on sait ce qu'on fait. Par contre, cette journée-là, ça allait sans doute pas y toucher, quoi. Il y avait besoin de reconnaître quelque chose. L'honneur d'un ministre, ça aurait été de reconnaître l'hommage que ses collègues rendaient à leurs collègues décédés tragiquement.
Et au ministère de l'Éducation nationale, on indique pour l'instant que consigne avait été donnée de ne pas retenir une journée de salaire pour les enseignants à Pantin. Nous évoquions la contestation contre la réforme des retraites liée à une colère et une fatigue latente dans certaines professions. À l'hôpital également, la vague de démissions administratives continue. Hier à Brest, Caen, Marseille et Paris, aujourd'hui à Avignon et Annecy. Les soignants réfléchissent également à un autre moyen d'action pour mobiliser en dehors de l'hôpital cette fois. Le collectif Interhôpitaux prépare une grande manifestation le 14 février, Céline Autain.
Déclarer son amour pour l'hôpital public, c'est l'appel lancé sur les réseaux sociaux en direction des patients, usagers d'un jour ou sympathisants pour la Saint-Valentin, journée de mobilisation des soignants. Le collectif Interhôpitaux publie déjà ses courriers en ligne, anonymisés. On peut y lire notamment « Hôpital public, je t'aime car ton service pédiatrique de Pau a sauvé mon enfant de 3 ans ». Des témoignages, des photos également avec la bannière « J'aime mon hosto » et pour sensibiliser un nouveau mode d'action calqué sur la lutte contre les féminicides, Marie Citrini, membre du collectif Interhôpitaux.
Souvent, on pense que l'hôpital est un lieu fermé, que ce qui se passe dans les murs de l'hôpital n'atteint pas la ville. Or, ça n'est pas vrai. Et donc, ça nous semblait important d'ouvrir aussi ces messages d'aide vers l'hôpital sur la ville. Et donc, nous avons des militants colleurs qui, le soir, vont coller ces affiches très colorées pour appeler à sauver l'hôpital public.
D'autres actions ponctuelles tentent de solliciter des citoyens, comme cette chaîne humaine autour de l'hôpital Robert-Debré, qui a mélangé 600 soignants et usagers. Au-delà de l'opération de communication, le collectif veut rappeler qu'à l'hôpital, tout est lié. Quand il manque des infirmières ou des médecins, ce sont les patients qui trinquent. Et ce collage choque de résumer la situation sur les murs de nos villes. Léa, une boule dans le sein, rendez-vous dans 2 mois.
Je précise qu'hier, les médecins étaient aussi nombreux à se mobiliser contre la réforme des retraites. Cette fois, aux côtés d'autres professions libérales, des milliers de personnes étaient à Paris. Les avocats notamment étaient nombreux. Ces derniers seront reçus à Matignon aujourd'hui. Le groupe pharmaceutique Sanofi annonce sa mise en examen dans l'enquête sur le scandale de la dépakine. Cet antiépileptique a été prescrit à des femmes enceintes alors que ses dangers pour le fœtus étaient connus. Il n'y a pas d'épidémie en France, aucune circulation du virus sur le territoire. Voilà ce que dit le directeur général de la Santé qui confirme par ailleurs les 6 cas déjà actés, pas plus. En revanche, en Chine, le gouvernement chinois admet des insuffisances. Le bilan monte à 425 morts. Un décès également a signalé aux Philippines et un autre à Hong Kong. Les ministres de la Santé des pays du G7 ont convenu hier de se coordonner dans les conseils de voyage et les mesures de protection et de prévention. Car les rumeurs infondées circulent ces derniers jours et elles inquiètent d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour contrer les fausses informations, Jérémy Lanche.
Non, caresser son chien ou son chat ne peut pas transmettre le coronavirus. Pas plus couvrir un paquet en provenance de Chine. En ce qui concerne l'ail, même s'il est bon pour la santé, en consommer ne vous protégera pas d'une infection. Quant à l'huile de sésame, vous pouvez vous enduire le corps avec si vous voulez, mais là aussi c'est totalement inefficace. Les messages publiés par l'OMS sur les réseaux sociaux peuvent faire sourire. Le problème c'est que ce genre de désinformation circule encore plus vite que la maladie. L'OMS a demandé aux plateformes de jouer le jeu en faisant le tri sur leurs réseau. Le patron de l'agence, Tedros Ghebreyesus, l'a dit devant le comité exécutif de l'OMS.
Nous avons travaillé avec Google pour que les personnes qui recherchent des informations sur le coronavirus voient apparaître d'abord celles de l'OMS. Twitter, Facebook, Tencent et TikTok ont aussi pris des mesures pour limiter la désinformation sur les réseaux sociaux.
Don't worry, it's not corona.
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le coronavirus.
Certains mythes ont pourtant la vie dure. Un remède traditionnel chinois est par exemple en rupture de stock depuis que l'Académie des sciences de Chine a vanté ses mérites, sans que Pékin n'y trouve vraiment à redire. Il faut dire que le président Xi Jinping a élevé la médecine traditionnelle au rang de trésor de la civilisation chinoise. L'OMS rappelle qu'à ce jour, aucun médicament n'existe contre le coronavirus.
C'était Jérémy Lange depuis Genève pour France Culture. C'était un penseur et un critique littéraire hors pair. Son ironie mordante n'épargnait pas la civilisation contemporaine. Le philosophe George Steiner est mort hier à l'âge de 90 ans. Vous lui rendiez hommage ce matin, Guillaume, dans votre humeur du jour, à réécouter d'ailleurs sur franceculture.fr. À retrouver également un article sur sa vie, sur son œuvre, en une de notre site. Rendons aussi hommage à un autre homme décédé hier, un homme de médias qui fut directeur de France Culture de 2005 à 2008. David Kessler est décédé à l'âge de 60 ans. Haut fonctionnaire, David Kessler a longtemps conseillé Lionel Jospin, puis François Hollande à la culture, avant de diriger le Centre National du Cinéma, puis notre chaîne France Culture. Il était depuis 2014 le directeur d'Orange Content, la division contenu de l'opérateur de télécom Orange. David Kessler est père de 3 enfants. Un mot enfin de Radio France, plus généralement, où la grève a été suspendue hier et le sera jusqu'à début mars, reconduite régulièrement par la CGT contre les suppressions de postes demandées par la direction. Cette grève aura été la plus longue à Radio France, elle a duré 63 jours. Les discussions avec la direction ont repris. Après une nouvelle journée très douce, voire trop chaude par endroits hier, ce mardi sera marqué par un changement de temps et de la pluie qui va traverser le pays dans la matinée, avec des températures en nette baisse. 4 degrés ce matin à Besançon, 6 à Lille et Paris, 8 degrés à Lyon, 10 à Bordeaux et 17 degrés dans la matinée à Nice.